When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Nous sommes le 14 septembre 2009 et c'est l'épisode numéro 17. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes donc en septembre 2009, c'est l'épisode numéro 17 déjà. Nous allons parler aujourd'hui de toutes sortes de choses passionnantes comme Apple et ses événements cataclysmiques, Microsoft, Skype, OnLive, YouTube, Wikipédia et plein de choses super passionnantes comme ça. Mais avant toute chose, il me faut saluer dignement mes co-animateurs du jour. Bonjour à toi, lequel je vais choisir en premier. On va dire Mathieu Blanco, puisque c'est celui qui est le plus présent. ça doit faire quoi ton quatrième ou cinquième émission ?
Ouais, je crois cinquième.
Ouais, quelque chose comme ça. Tu vas bien, Mathieu ?
Très très bien, très bien. Et toi ?
Eh ben écoute, ça va. Je suis encore tout ému de notre live commun d'il y a quelques jours à peine.
Ému, pas à cause des annonces.
Non, mais à cause de l'organisation incroyable que tu avais fait. Je vais saluer notre deuxième co-animateur, Cédric Bonnet de Geek Inc. Comment vas-tu ?
Bah, très bien, très bien. Je vois que vous aussi, vous êtes en forme. Donc...
c'est l'actualité technologique qui nous emplit d'une énergie indicible. Je pense.
Waouh. Tu arrives à sortir ce mot à 22h, bravo.
En fait, j'ai couru sous la pluie pour arriver à l'heure. Les gens qui me suivent sous Twitter savent que j'étais au hall en train de bouffer avec des amis. Et au moment, en fait, c'était un timing super serré. Et au moment où je me dis, bon, là, il va falloir que j'y aille, un orage qui éclate, mais que j'ai jamais vu ça, quoi. Le truc, il a plu des cordes et ça s'arrêtait pas. Du coup, j'ai couru sous la pluie, ça m'a réveillé. C'est pour ça. Et bien sûr, bonjour à la chatroom qui est là avec nous. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts pour un épisode fantastique. Hein, je vois des gens qui sont...
Épisode épique et fantastique.
Ouais, les gens ils sont en train de dire oulé oulé, bonjour, hey, bonjour, salut. Salut à vous tous, merci d'être là comme d'habitude. Et donc je disais, Mathieu, tu nous as fait un petit live... pour parler de l'événement, enfin de la conférence de presse d'Apple qui a eu lieu, c'était quand, le 9 septembre ?
Mercredi dernier, ouais.
Et donc tu as organisé ça avec avec We Love Mac, avec Captain ouais. Web et avec d'autres gens.
Ouais.
C'était.
Quelle est ta question ?
Ma question en fait, c'est est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un petit peu comment ça s'est passé, parce que c'était quand même un gros événement de la scène podcasteuse francophone.
Alors oui, écoute, il y avait donc forcément à ce moment-là les sites d'actualité news Apple, c'est généralement le moment où ils font la plus grosse audience de l'année. Ça se compte avec un chiffre à 5-0 en termes de personnes en simultané sur la plupart des sites. Et puis voilà, on s'est dit bon, pour une fois, on va tester, on va faire un live vidéo, voir ce que, je sais pas, ce qu'on ressent quand on suit un live textuel, bah c'est un peu plat, c'est comme le texte. On va voir ce que ça va donner quand on va faire ça en vidéo et en audio, et puis on va en même temps faire quelque chose qui est un peu difficile à l'écrit, c'est-à-dire non seulement rajouter en direct les photos. Et puis j'ai eu la chance d'envoyer des mails à tout le monde au dernier moment, à toi notamment, mais à Cédric Ingrand de LCI avec qui on a fait une émission, un rendez-vous tech il n'y a pas très longtemps.
Tout à fait.
On a aussi eu spontanément, et là je les remercie, c'est-à-dire ils sont venus me contacter, le poste.fr, c'est Le Monde Interactif, donc le journal Le Monde, la partie interactive, ils m'ont contacté en me disant on veut vous mettre en une de notre site et on va vous mettre en relation avec une journaliste qui est à Londres et qui suit la keynote et qui va pouvoir jouer avec les iPods juste après la keynote. Donc on a eu, sans le faire exprès, j'ai envie de dire, énormément de bonnes choses. Et puis c'est vrai que les gens qui ont pu le suivre nous ont dit que c'était génial, que même si c'était, il y a plein de choses qui se sont pas passées comme prévu.
Qui est marrant en fait.
C'était ça qui était bon, c'est-à-dire on a fait participer, on a fait des votes comme tu le fais dans Ustream, on a fait voter la chatroom et puis on avait le matos derrière pour dire voilà, vous avez 5 minutes pour voter et puis au bout des 5 minutes, on affichait un joli camembert en 3D comme à la télé. Enfin voilà. On s'est vraiment fait plaisir et c'est vrai que quand on a regardé l'enregistrement, je me suis dit waouh, ce que tu ressens en suivant un live comme ça, c'est ultra vivant par rapport à tous les lives textuels. Et donc on va pour les prochains, on va le faire exprès de faire encore mieux.
D'accord. Bah écoute, c'est vrai que en plus quand tu fais les choses, tu les fais généralement plutôt bien. Donc c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'y participer, mais uniquement par téléphone. C'était marrant. J'étais en train de marcher dans la rue et tu nous donnais les dernières nouvelles. Donc ça m'a permis de suivre ce qui se passait dans la keynote, qui en dehors de ça était un petit peu plate elle, mais donc
creuse
un petit
même.
Mot oui, on va dire ça, une petite recommandation à ceux qui nous écoutent. Si vous êtes intéressé par ce genre de choses et que vous voulez vivre ce genre d'événement avec d'autres personnes qui sont tout aussi passionnées que vous et qui animent un petit peu les choses, vous pouvez suivre Mathieu ou moi ou les gens comme ça sur Twitter et vous aurez toutes les annonces pour ces événements live à l'avenir.
Oui, d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés par vraiment le gros développement de quel logiciel j'ai utilisé, comment, tout ce qui s'est passé, l'organisation, qui est venu, les statistiques, j'ai tout mis sur mon blog.
Qui est ? Vas-y. Hein.
MathieuBlanco.fr, aussi D'accord. simple que ça. Alors Mathieu, c'est 2TH.
Ok, ça marche. Voilà.
Sinon, vous n'allez pas y arriver.
Et toi, Cédric, tu as une actualité incroyable en cette période de conférence de presse ?
Bah ouais, j'ai une actualité incroyable, puisqu'en fait, le jour de l'annonce Apple, le 9 septembre, le nouvel iTunes Store est apparu, et j'avais la grande surprise et joie de me retrouver en une de la page podcast.
Ouais, qui est toujours d'ailleurs, je crois.
C'était pas la une, c'était la moitié de la page.
Oui, c'est vrai. C'est la moitié de la page, ce qui a permis à Geeking de battre des records d'audience comme on n'a jamais battu, c'est-à-dire que... on a fait en une journée ce que d'habitude on fait en deux semaines, quoi. forcément, puisqu'on a atteint jusqu'à la cinquième place du classement général et la deuxième place des podcasts vidéo, tout confondu, hein. Donc ouais, c'est ça qui est assez exceptionnel.
Ouais, ce qui est marrant, c'est que sur ce genre de truc, on est en compétition avec des sociétés comme RTL, TF1,
Europe 1,
Omar et Fred, oui.
Voilà. Ouais, donc moi, ma grosse actualité, ça a été ça, l'explosion sur les derniers podcasts et énormément de retours positifs, de commentaires, donc on était très contents. Voilà.
Et d'ailleurs, comme je te dis, tu y es encore hein, sur la page.
J'y suis encore et j'espère que je vais y être encore jusqu'à mercredi au moins.
Oui, voilà. Ça fait toujours. Moi, je crois pas que j'ai été sur la page principe off, peut-être.
Si, tu as été une fois, je m'en souviens. Ouais.
Oui, je t'avais envoyé un screen, c'était un petit bloc bien.
Oui, contrairement à ce qu'ont voulu faire passer comme rumeur les gens de chez Scuds, notre podcast, hein, je n'ai pas donné mon foie à Steve Jobs pour obtenir cet emplacement. Voilà, c'est pas moi le donateur.
Moi, je crois que Jérôme est dans la chatroom où il y était tout à l'heure. Je suis sûr qu'il si, il est là, ouais. Je suis sûr qu'il
oui, il est là.
Ok, bon, bah, après cette petite partie auto-promo, mais aussi pour vous informer de ce qui se passe dans le merveilleux monde des podcasts qui est en train un petit peu de gagner en popularité, pour mon plus grand plaisir, on va passer à l'actualité véritablement. Et la transition est facile puisqu'on va commencer avec cette incroyable événement de la conférence de presse d'Apple qui était intitulé It's only rock and roll but we like it ou un truc comme ça et qui était exclusivement consacré à la iTunes et la musique en général.
Voilà, et je crois que
Ouais.
C'est bon, tu as résumé, on peut passer au sujet suivant.
En fait, on attendait énormément de choses. Il y a des gens qui parlaient de la tablette, peut-être, même si les, la fameuse tablette tactile, même si les rumeurs disaient que, bon, a priori, ça serait plus pour, elle serait plus présentée vers la fin de l'année. Il y a des gens qui parlaient de l'iPod Touch avec caméra, etc. Finalement, on a eu droit à iTunes 9, qui n'apporte pas énormément de nouveautés incroyables, si ce n'est une gestion des applications de l'iPhone et de l'iPod Touch un petit peu plus pratique que celle qui existait jusqu'à maintenant, et ça, c'était bienvenu. Et puis des trucs genre les mélanges Genius qui vous font en fait des listes de lecture automatiques qui sont relativement sympas, et des trucs comme les iTunes LP, donc les LP sont les albums, les 33 tours, hein. Et iTunes LP, c'est un principe où on achète un album un petit peu plus cher, mais on a des trucs genre les paroles, des interviews exclusives, des vidéos, des clips, des trucs comme ça, qui sont sympas, mais qui sont pas non plus révolutionnaires. Et on a eu un iPod Nano qui fait en même temps caméra vidéo. Et ce qu'on n'a pas eu, c'était l'iPod
baladeur
Touch.
Et baladeur HM et plein de trucs.
Voilà.
Il fait plein de trucs.
Ouais, la grosse annonce, c'était l'iPod Nano qui fait caméra, quoi. Et en plus d'une petite mise à jour de cet appareil, mais pas de caméra vidéo sur l'iPod Touch, alors qu'on l'attendait. Réaction comme ça à chaud rapidement. Mathieu, toi qui as eu le temps d'y penser et de le digérer.
J'ai envie de dire que c'était super.
D'accord. Légère déception pour notre fan d'Apple attitré.
Ouais, non, leur truc, on veut pas cannibaliser nos produits. L'iPod Touch, c'est une console de jeu. Bon, s'ils veulent. L'iPod Nano, c'est notre baladeur de musique. On va tout mettre dedans, la radio FM, l'appareil photo, la vidéo, tout ça. L'iPod classique, on va juste descendre le prix. Et l'iPod Shuffle, on va juste descendre le prix et faire au total 18 modèles avec des couleurs et puis une édition en inox. Il n'y avait pas besoin de faire un event, hein. Franchement, ouais. ils auraient fermé l'Apple Store durant 4 heures s'il faut pour faire un peu de buzz. Et ils auraient sorti un nouveau produit, ça aurait été pareil. Vraiment. D'accord. Pareil.
Cédric, tes impressions?
Bon, on va encore dire que c'est parce qu'ils m'ont mis sur la une de l'iTunes Store. Mais moi je trouve que justement, il y a eu une grosse évolution au niveau du store quand même. Alors, certains le trouvent un peu plus bordélique. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien cette nouvelle présentation. Je te corrige juste sur un truc. Les albums en LP coûtent la même chose que les albums normaux.
Ah bon, j'étais pourtant convaincu qu'ils étaient à 13.
Non. Par exemple, tu peux acheter l'album de Muse en précommande en LP à 9,99. Donc voilà. Moi, surtout, la fonction que je retiens de ce nouvel iTunes, c'est le partage domestique.
Ouais.
Comme j'ai deux ordinateurs avec iTunes qui utilisent d'ailleurs le même compte iTunes, c'est la condition. Je peux afficher les morceaux par exemple que j'ai dans une des bibliothèques, qui soient achetées ou pas sur l'iTunes Store, et ça me permet justement de faire des synchros entre mes deux ordinateurs, parce que j'ai souvent des morceaux que j'ai sur mon portable par exemple et que j'ai pas sur mon fixe, donc ça met un peu le bazar dans mes synchronisations par exemple. Et on peut le partager, ouais, jusqu'à 5 ordinateurs, comme ça, c'est, je trouve ça pratique quand même.
Ça, c'est vrai que c'est une énorme nouvelle, surtout que c'est applicable également aux applications de l'iPhone.
Exactement.
Ce qui veut dire qu'on l'achète une fois et on peut
Si on a deux iPhones dans la famille ou trois qui utilisent le même compte iTunes, on peut partager ces applications, ces morceaux de musique, ces séries télé.
Par contre, il faut avoir le même compte iTunes, donc on peut pas avoir je peux pas avoir mon compte, et par exemple, si j'étais marié, Dieu m'en garde, ma femme aurait un autre compte iTunes, on pourrait pas partager entre les différentes nos différents.
Non, il faudrait créer un compte pour la famille Béja. Et là, ça réglerait le problème avec un compte commun et tout ça. C'est d'ailleurs pour
mais
ça.
Par contre, ça réglerait d'autres problèmes, parce qu'il faudrait rattacher une carte bleue, tu vois. Et à quelle carte bleue faut rattacher au compte de la famille Béja?
Celle du compte commun.
Moi, c'est bon, j'ai d'autres dépenses.
Voilà, pour l'idée, moi, je trouve que ça vachement bien. Je rappelle juste au passage, je sais pas si on en parlera après, mais c'est demain que Adobe revient. Revient à la charge, donc du coup c'est intéressant de souligner que on n'a plus de DRM, on peut partager sa musique sur 5 machines de façon très simple avec une fonction importée qui marche vachement bien. Enfin, moi je trouve qu'il y a quand même de gros progrès.
Il faudrait être sur le même réseau local, n'est-ce pas? Parce que
oui.
Si je ne m'abuse, ouais, on ne peut pas faire ça entre la maison et le bureau par exemple.
Alors justement, petit conseil logiciel totalement légal. Je pense que Cédric doit connaître le logiciel Simplify Media.
Oui.
Donc si vous recherchez un petit logiciel qui permet, en fait, si maintenant j'installe ce logiciel sur mon Mac, que Patrick l'installe sur son PC ou une autre personne sur son iPhone ou son, ou il est partout, en fait ça permet de s'inviter, d'inviter jusqu'à 30 amis et de partager toute sa bibliothèque iTunes et ses photos.
Ce qui fait que si copier également.
Non, on peut pas les copier, bien sûr, sinon ce serait totalement illégal. Ouais. Mais par contre, c'est super pratique. C'est-à-dire, si maintenant je lance Simplify Media sur mon Mac avec iTunes lancé et que toi tu fais pareil de l'autre côté, en fait, sur le dans ton iTunes, tu vas me voir apparaître et tu vas pouvoir venir écouter tout ce que j'ai dans ma bibliothèque. Donc c'est la petite application vraiment qui et en plus elle est dispo partout, sous Mac, sous Windows, sous Linux, sous iPhone. C'est-à-dire que depuis l'iPhone, tu peux venir écouter ce que j'ai dans mon ordinateur où que tu sois dans en France. Voilà, c'est une petite application vraiment super.
Scandale.
Voilà, mais la différence donc de Simplify Media, c'est que là on est carrément dans l'import, on copie le fichier en local, voilà, dans sa bibliothèque, voilà.
D'accord.
Si Simplify Media permet ça, c'est illégal.
Juste une petite note par rapport au LP, le iTunes LP des Doors du 40e anniversaire coûte 12,99€ et l'album équivalent coûte 9,99€. Les LP sont plus chers.
D'accord, mais tu vois, Muse, c'est 9,99€ pour le... D'accord.
Ouais, mais c'est le coût des prix.
Prix variables, donc voilà.
Mais ceci dit, on peut rire un peu de cette initiative. Dans la keynote, il montrait notamment des interviews, par exemple, des différents membres des Doors qui parlaient de choses. Enfin, pour les fans, il y avait des anecdotes, ils racontaient la création du groupe, etc., qui ont une vraie valeur, à mon sens. C'est pas un 33 tours, c'est pas la même chose, c'est pas le même feeling, mais ça peut effectivement être intéressant. Les gens peuvent être intéressés de payer un petit peu plus pour ce type d'extra, enfin extra en anglais, donc de bonus. C'est pas si anecdotique que ça. Et moi, mon interrogation, c'est pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre que Apple, dont c'est pas le boulot, prennent ce genre d'initiative, alors que les majors et les sociétés de musique, dont c'est le travail, essayent de revitaliser le monde de la musique depuis des années. Enfin,
peut-être qu'il y avait une question aussi de lecteur, tu vois, de ce genre de fichier et tout ça, et là iTunes propose une solution logicielle intégrée.
D'autant plus qu'ils sont devenus le premier vendeur de musique, le premier distributeur de musique au monde, ce qui est également
Donc ça aide, et je pense que peut-être que c'est des maisons de disques qui leur ont proposé, et Apple a finalement derrière dit ok, je vous le fais, c'est une excellente idée, tu vois, on sait pas réellement d'où vient l'idée.
C'est possible, j'en doute, mais c'est possible, oui.
Ouais, voilà.
Dernière chose quand même, moi la chose qui m'a le plus marqué dans cet événement, c'est le retour de Steve Jobs qui a fait la présentation de la conférence. Étant donné que bon, les auditeurs qui nous suivent depuis quelque temps savent que avec son fameux cancer du foie, il était censé partir pour 6 mois puis revenir, et on avait pensé que il était très possible que accablé par la maladie, il ne revienne pas. Et ben Apple nous a fait mentir. En tout cas, nous a prouvé qu'il était vraiment de retour, puisque c'est lui qui a fait la présentation. Il était très, très maigre.
Il était en forme, même. Par contre, était en forme. Et
oui. Il était
avait
en forme.
Il avait la niaque.
Ouais, tout à fait. Donc, autant on était un petit peu triste de le voir partir à l'époque, autant ça fait plaisir. Et puis, c'est un signal assez fort pour l'industrie, montrer qu'il est toujours là, présent et à la tête d'Apple.
Et puis, l'interview qu'il a fait après, il a rassuré les gens justement sur son poids en disant qu'il mangeait beaucoup de glace et qu'il se faisait très plaisir à ce niveau-là.
Voilà. Autre conférence de presse qui a eu lieu il y a quelques jours, c'est la conférence de presse de rentrée de Microsoft sur leur nouveau campus parisien, auquel j'ai eu le plaisir d'assister. D'ailleurs, j'ai croisé notre ami Cédric Ingrand là-bas. Et bon, il n'y avait rien d'incroyable, donc je n'ai pas vraiment d'infos à faire passer sur des annonces ou ce genre de choses, si ce n'est que leur campus, enfin leur nouveau bureau où ils réunissent toutes leurs activités, est assez magnifique. Donc bon, ça c'est une information d'importance. Mais par contre, il y a une impression que j'ai eue en assistant à cette conférence de presse, et qu'on a parfois tendance à perdre de vue, c'est à quel point le monde de Microsoft et le monde d'Apple sont différents. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à les comparer sur le marché consumer, sur le marché grand public, et on oublie à quel point Microsoft est une société énorme, avec des besoins et des clients très différents d'une part, et avec, qui ont des besoins eux-mêmes
totalement
extrêmement différents des clients d'Apple. Donc, on le sait toujours, mais ça m'a rappelé à quel point il était facile de condamner Microsoft en le comparant à Apple, alors que Apple, finalement, a un terrain de jeu qu'il est beaucoup plus facile de maîtriser et qui est beaucoup plus restreint. Et le travail que fait Microsoft pour mettre en commun et avoir une synergie avec toutes ces technologies et tous ces produits et tous ces logiciels est monumental. Je veux dire, il n'y a vraiment, vraiment pas de comparaison possible entre les deux entités. Donc ensuite, peut-être que Microsoft pourrait faire les choses mieux, mais ce qui m'a frappé, c'est vraiment... Enfin, quand tu vois Microsoft avec la liste des produits qu'ils sont en train de maintenir et de développer, c'est des pages et des pages entières. Donc, voilà, je voulais simplement rappeler à nos auditeurs et me le rappeler à moi-même à quel point Microsoft a effectivement une ampleur qu'on oublie et qui n'est pas du tout comparable à celle d'autres compétiteurs.
Totalement. Voilà. Mais après, c'est vrai que quand le bœuf veut devenir la c'est quoi le ce qui nous avait sorti Cédric, c'était le bœuf et la grenouille, non, c'était
quelque ça, quelque chose comme ça, ouais.
Voilà, quand le bœuf veut devenir la grenouille et quand la grenouille veut devenir le bœuf, c'est ça, c'est ce qui nous permet de parler et de dévier parfois sur des sujets intéressants comme intéressés.
une réaction pleine de philosophie qu'on va laisser là où elle est à la réflexion des auditeurs. Autre nouvelle intéressante, c'est le procès que fait Amazon à Google. Parce qu'il s'est passé un truc un petit peu... Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, c'est un peu complexe, donc...
Oui,
Cédric, tu veux le...
Vas-y, je te laisse détailler, je réagis.
D'accord, j'espérais refiler le bébé, en fait, parce que moi, je ne suis pas... Bon, alors, ce qui se passe, en fait, c'est que Google a signé un accord avec certaines librairies pour digitaliser des livres qui sont ce qu'on appelle les livres orphelins. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas totalement sortis du domaine privé, donc ils ne sont pas dans le domaine public. Par contre, on n'arrive plus à retrouver les ayants droit. Et ces livres, le monde de l'édition essaye de les digitaliser depuis des années et des années. Ils n'y arrivent pas vraiment parce qu'ils n'appartiennent à personne. Et Google a signé un accord avec certaines librairies qui en avaient de ces livres en disant bah, « Nous, on vous les digitalise. Par contre, on a le droit exclusif sur ces livres. À partir de maintenant, les livres en version digitalisée, c'est nous qui les exploitons. »
C'est des petits malins.
Évidemment, ça n'a pas plu à grand monde et particulièrement pas à Amazon qui, eux aussi, essayaient d'obtenir ce type d'exclusivité. Et donc, ils se sont lancés dans un procès contre Google, qui a priori fait réagir Google, parce que je crois qu'aux dernières nouvelles, Google a promis que ces livres seraient mis à la disposition de leurs concurrents aussi. Donc c'est une très bonne nouvelle, et en particulier pour Sony, qui aura a priori la possibilité de bénéficier de ce catalogue, et qui fait de Sony un concurrent très très sérieux pour le Kindle d'Amazon. Ça devient complexe, mais les gens qui suivent l'émission auront compris. Bon, c'était une grosse histoire parce que le procès enfin Amazon qui fait un procès à Google, c'est une grosse nouvelle, mais bon, c'est pas non plus quelque chose qui nécessite des commentaires interminables.
Ce qui faisait peur en fait à Amazon, c'est que Google impose une sorte de DRM finalement et s'accapare la distribution de ces bouquins et les
rend
par exemple.
Ça ne ressemble pas d'ailleurs.
Ben non, en général Google, c'est sont pas trop du genre à. Enfin, leurs technos sont plutôt ouvertes quand même.
Oui, complètement.
Ouais, c'est même leur leitmotiv, c'est ne sois pas le diable, ne prends pas les choses pour toi.
Don't be evil, ouais.
Voilà. Et je pense que Amazon avait une stratégie qui était peut-être à l'opposé de celle de Google. Et bon, on le sait, hein, ils vendent des livres.
Ils les suppriment même. Ils les vendent et ils les suppriment.
D'ailleurs, oui, tu parles de cette histoire de 1984 qui a été supprimée des Kindle des gens. Et ils ont fait les choses très très bien. Ceux qui ont suivi l'émission là encore s'en souviendront, mais ils ont fait les choses très très bien puisqu'ils ont acquis les droits de 1984 et ils l'ont remis aux gens qui l'avaient déjà acheté. Donc un dernier développement qui était vraiment, vraiment Amazon a géré les choses d'une manière incroyable, aussi bien qu'il pouvait le faire et même au-delà. Mieux. Pardon, t'as interrompu Cédric, continue.
Non, non, mais en fait il se passe un petit peu la même chose que ce qui se passait aux prémices de la vente de musique en ligne finalement avec l'iTunes Store et compagnie quoi. Et voilà, c'est juste, enfin Amazon avait vraiment peur de se retrouver sans ses bouquins orphelins, sans pouvoir les proposer à ses clients pour parce que Google aurait décidé de les DRMiser, entre guillemets, et voilà ce qui leur faisait peur. Enfin, il faut se rappeler ce que c'était la musique au départ, quand on avait un catalogue Virgin Mega, un catalogue iTunes, un catalogue machin, et que les morceaux de musique étaient disponibles que dans certains et pas dans d'autres. Certains étaient du coup en WMA parce que c'était, ils utilisaient le système Microsoft, d'autres, enfin voilà.
Et puis même ils se marchaient dessus, c'est-à-dire si t'achetais un truc en WMA sur Virgin Megastore, tu pouvais que l'écouter sur les baladeurs Play for Sure, et le premier baladeur que Microsoft a sorti, il était incompatible avec leur propre DRM. Enfin c'était un bordel. c'était incroyable.
Voilà, il avait fallu attendre les Nokia aussi, les téléphones portables avec Play for Sure justement pour pouvoir autoriser la lecture de ces WMA dessus. Enfin c'était un bazar pas possible.
Et pendant ce temps, les gens prenaient de mauvaises habitudes.
Exactement, bah oui, mais c'est ça. Hein.
C'est dit coup, avec une telle retenue que c'est sans doute presque beau.
Et donc voilà, je pense que ce qui se passe dans le bouquin en ce moment, on le suit de loin parce que c'est peut-être pas très technologique de lire des livres, mais finalement, il est en train de se passer exactement la même révolution dans le livre et l'édition. On parle de livres, mais on va parler très bientôt de bandes dessinées, hein, puisqu'on voit que les formats dématérialisés arrivent aussi. Il existe plein de formats différents. Aujourd'hui, il n'y a pas de standard. Enfin, il n'y a pas de format MP3 du livre aujourd'hui. Il n'y a pas de format MP3 de la BD, du comics. Et finalement, c'est ce qui fait un peu peur, se dire que voilà, Google arrive, décide de racheter une partie du catalogue qui pourrait ne plus être disponible dans un autre format. Enfin, voilà, ça fait trembler les gens.
Je me permets de faire comme on a commencé une discussion des fois un peu philosophique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la plupart des formats, que ce soit musique, vidéo, etc., qu'on utilise, ont été créés absolument pas dans l'optique justement de faire de l'argent ont été créés un peu par hasard pour la plupart. À chaque fois qu'ils ont voulu créer un format spécifique pour la musique, pour CSA, ils ont fait un truc qui a absolument pas marché, comme le MP3 Pro, le MP4,
le Atrax,
que ce soit pour la musique ou pour la vidéo, on utilise encore aujourd'hui le AVI pour encapsuler ces vidéos. C'est un truc qui a absolument pas été fait avec l'idée des DRM, donc c'est quand même assez parlant pour moi.
Non, ouais. Voilà, mais en fait l'idée c'est que l'histoire se répète toujours, et dans chaque industrie. Qui autorise la dématérialisation, se reposera ce genre de problème. Donc voilà, là c'est les bouquins dont on parle. On va parler de la bande dessinée dans pas longtemps. Enfin bon, voilà.
Ouais, donc c'est un beau foutoir pour le moment, et puis ça va finir par se régler de soi-même, mais il faudra attendre quelques.
Exactement, un format s'imposera, et puis on n'en parlera plus.
À propos de BD, le e-book de Asus risque effectivement de nous proposer ce type de produit, puisque Asus a présenté il y a quelques jours ou quelques semaines je ne sais pas s'ils ont donné une date de sortie, mais
je n'ai pas vu.
Le produit est très intéressant. En fait, c'est un e-book, donc un livre électronique, sauf qu'il s'ouvre et on a une page à droite, une page à gauche, donc ça se tient comme un véritable livre. Il est en couleur, a priori. Et il coûte à peu près une centaine, entre 100 et 130 euros. Donc, on arrive quand même...
Je suis curieux de voir la qualité quand même.
Moi aussi, c'est très surprenant parce qu'a priori, les e-books déjà en noir et blanc coûtent une somme invraisemblable. Il réussirait à faire deux écrans en touch avec le. Enfin, ça semble un petit peu trop beau pour être vrai quand même cette histoire.
Mais moi, je pense pas que ce soit trop beau pour être vrai justement, parce que quand on regarde les écrans des e-books, finalement avec cette espèce d'encre électronique qui consomme très très peu, je veux bien croire que ce soit une technologie qui soit pas répandue et qui coûte encore cher.
En fait, ce qui doit coûter cher, c'est de pas avoir pu encore l'industrialiser en masse à mon avis.
Exactement. Et puis, je pense que ça doit quand même coûter cher à produire aussi, ça il faudrait voir, mais bon. Et puis effectivement c'est pas très répandu, donc forcément
oui, mais enfin quand même
ça coûte encore cher. Mais regarde aujourd'hui, finalement l'Asus c'est quoi? C'est un espèce d'ordinateur avec deux écrans tactiles, hein, ni plus ni moins. Et un écran tactile aujourd'hui, quand tu vois que des IPC et tout ça en sont équipés, Je crois pas que ça peut être moins cher qu'un e-book classique.
Ou alors ils ont tout simplement repris un process de fabrication pour un autre produit et puis ils produisent sur la même chaîne. Asus, c'est quand même Asus qui fabrique la moitié des ordinateurs pour Apple, pour eux-mêmes, pour Sony.
Les gens ne savent peut-être pas, mais Asus c'est pas uniquement une marque en soi. Ils sous-traitent aussi énormément de produits, en particulier des ordinateurs portables, pour d'énormes constructeurs, comme tu le dis. Je crois qu'ils font les HP, les Sony et les
Apple.
Ouais. Mmh. Tout à fait.
C'est Asus Tech, si vous voulez rechercher l'astuce. C'est pas le nom de la boîte, c'est Asus, c'est Asus Tech.
Mais il faut pas. Enfin, moi, il y a juste un truc que l'on oublie. La couleur, c'est bien beau. Seulement, on va se retrouver très certainement avec une ancienne technologie d'écran, hein, tactile, tout ça. Enfin,
oui, donc il ne s'agit pas d'électronique.
Et là, on risque d'avoir un gros problème au niveau de l'autonomie. Hein. Enfin. Je sais pas vous, mais voilà. Et puis, il faut pas oublier que ce sont des écrans qui, cette fois-ci, seront rétro-éclairés et tout ça, et qui fatigueront beaucoup plus les yeux qu'un écran, encre numérique, en fait, comme les e-books et autres, qui sont vraiment hyper confortables.
D'accord. On quitte le domaine du livre pour parler du domaine de la voix avec cette rumeur.
Et juste avant, vu qu'on parlait de BD, je rappelle que Bande de Noobs est disponible chez votre libraire.
Oui, c'est Noobs, pas Bande de Noobs. Bande de Noobs, c'est le podcast de Yann, mais voilà. Oui, Noobs est disponible chez le libraire, c'est vrai. Si vous aimez les jeux de rôle en ligne ou les BD de geek, vous pouvez aller voir Noobs, N-O-O-B-Z. Mais j'en ai déjà suffisamment parlé, donc voilà. Mais c'est gentil, Mathieu, de me tendre une perche comme ça.
que d'auto-promo.
D'ailleurs, pas mal de gens qui l'ont acheté et qui m'en parlent sur Twitter et qui envoient des mails, et visiblement, ils en sont contents, donc... Voilà, bref. Donc, je disais, le monde de la voix, pour parler de Skype, on disait il y a pas longtemps que eBay allait revendre Skype, a priori. Eh bien, c'est fait. Ils ont vendu 65% de la boîte, donc pas entièrement, mais par contre, pour un prix qui est inférieur au prix auquel ils l'ont acheté. Donc, voilà, c'est bravo. C'est l'une des opérations les plus ridicules de l'histoire, parce que, comme on le disait la dernière fois... Oh, ils l'ont acheté, tout le monde a dit, mais vous allez en faire quoi ? Et qu'est-ce que vous voulez d'un truc comme Skype ? Ils ont dit, non, mais c'est bon, on va,
on va voir. Ça.
Trois ans plus tard, ils disent, bon, bah finalement... Trois ans plus tard,
ils en ont fait un truc, surtout la version Windows, une usine à gaz, mais qui va dans tous les sens.
Franchement, je le trouve... Moi, je m'en sers... remarque, j'ai l'ancienne version, mais je m'en sers tous les jours, il marche très bien, hein.
Non, mais c'est pas sur la question, c'est la vision, tu sais, ils ont essayé d'en faire un truc à la Wengo, où tu pourrais appeler des gens et puis ils pourraient faire payer, après ils ont essayé d'en faire un MSN avec un concours de Smiley et de Wiz, après ils ont essayé de partir dans tous les sens, la version Windows elle est complètement en décalage avec la version Mac et la version Linux, on n'en parle même pas, alors qu'à la base c'était censé tous sortir en même temps et être bien... Skype, ils ont acheté ça en disant oui, mais vous allez voir, on va faire comme PayPal, on va l'intégrer à eBay, les vendeurs et les acheteurs vont pouvoir se contacter en direct par le site. Enfin, franchement,
Ça veut dire que a priori c'est une bonne chose que Skype repasse en un petit peu plus indépendant.
Le souci, c'est qu'ils repassent en indépendant et ils revendent ça à un fonds d'investissement. Les créateurs de Skype, qui sont les créateurs de Casa, si vous avez connu cette époque du peer-to-peer, sont en train de faire un procès parce qu'ils disent qu'ils ont encore les droits sur la technologie du moteur intérieur, du moteur de peer-to-peer à l'intérieur. Donc en fait, Skype, ils revendent un truc qui a déjà un procès dessus. Comme quoi, ce qui est à l'intérieur, ça appartient au créateur. Franchement, le fonds d'investissement qui a foutu ses billes là-dedans.
Oui, c'est vrai que. Mais d'ailleurs, ça rajoute au ridicule de l'histoire. Parce que comment est-ce que eBay a acheté Skype avec une clause qui disait la partie du moteur peer-to-peer, qui était le cœur finalement de Skype et la raison pour laquelle il fonctionnait aussi bien, reste une propriété des créateurs. Comment est-ce que tu peux acheter un... Ils ont acheté une coquille. Bon, pas une coquille vide, faut pas exagérer. Il y avait quand même toute la base d'utilisateurs.
Ah non, et puis Skype, ils auraient pu faire un super truc. Hein. Mais le problème, c'est que, voilà.
Bon.
C'est...
Bon, voilà. Écoute. un deal un petit peu plus intéressant qui risque de changer nos habitudes à nous aussi. c'est cette histoire de location de films sur YouTube. Alors, ce n'est pas confirmé encore, hein, c'est à l'état de rumeur, mais suffisamment substantié pour qu'on en parle. Il y a une histoire du Wall Street Journal qui confirme que YouTube serait très très intéressé par l'idée d'avoir des films en location sur son site. Et ça impliquerait évidemment une réorganisation.
Ce serait génial.
Oui, c'est la comment dire. J'allais utiliser un mot anglais puisque Jeff n'est pas là. Alors petite parenthèse. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un email ou qui a fait un commentaire très très énervé. Je suis désolé, je me souviens plus du nom, sur le fait que Jeff utilise des anglicismes souvent dans les.
En même temps, il est là-bas, quoi.
Alors oui, je suis désolé, ça arrive. Il habite aux États-Unis depuis longtemps et ce sont des choses. Et même moi, qui n'habite pas là-bas, qui suis plongé dans ce monde, il m'arrive d'utiliser des anglicismes. Donc voilà, je pense qu'on fait tous les efforts possibles pour le réduire au maximum, mais je crains que ça fasse partie de l'émission. Donc maintenant, c'est.
Mais on souhaite bonjour à tous les profs de français qui nous écoutent.
Et donc, ce que je disais, c'est une convenience. Un pratique sans égal, parce que tu arrives devant ton ordi, machin, clic, tu payes tes 3 euros, tu as ton truc en streaming directement. Évidemment, la qualité devra être meilleure que ce qu'il y a aujourd'hui sur YouTube.
Mais non, mais ce qu'il y a sur YouTube en HD, c'est génial.
Oui, c'est bien, ouais.
C'est pas de la vraie HD. Hein,
c'est pas de la vraie HD, mais ça reste pour du streaming. Moi, je trouve ça top, quoi. C'est vraiment. Oui. Je veux dire, il faut avoir les deux avantages. Si un site diffuse de la vraie HD, t'as intérêt à avoir de la fibre optique pour que ça soit agréable à regarder et pas devoir attendre 10 minutes, le truc commence à lire, et si tu veux naviguer à travers ton film, c'est impossible. Donc, ils ont fait un genre de. Je trouve que YouTube fait un genre de compromis. Entre le fait de pouvoir visionner un truc en streaming, de pouvoir se balader à l'intérieur d'une manière extrêmement rapide, voilà, si d'un coup je veux avancer, je clique sur le milieu, j'attends 3 secondes et la vidéo repart. Et en même temps, pour les grosses vidéos commerciales, la qualité de leur HD, je sais pas, je suis sur un iMac 20 pouces, quand j'ai regardé le film français Home, en HD en plein écran, bah ma foi, ça m'a pas dérangé, quoi. C'était bien, c'était la qualité un petit peu meilleure ou un petit peu pareil qu'un DivX quand tu le télécharges, quand tu le rip toi-même à partir d'un DVD que tu auras acheté préalablement.
Bon rattrapage. C'est vrai que de toute façon c'est le début de la convergence ultime pour les médias vidéo, de la même manière qu'on l'a en audio aujourd'hui enfin.
Et puis c'est surtout que c'est un réflexe qu'ont les gens. Tu vas sur YouTube, tu tapes le nom d'un film, tu cliques sur le machin, tout d'un coup en plus, je pense bien que Google va intégrer Checkout derrière et pas PayPal, ça va être mixé avec ton compte Checkout, tu vas faire un clic, tu sais que ça te débitera 3 euros ou 2,50 euros à la fin du mois, et puis ton film il va se lancer, et tu peux naviguer dedans comme dans une vidéo dans YouTube avec les possibilités qu'ils ont rajoutées de commentaires, de sous-titres,
là où ça deviendra d'autant plus intéressant, c'est le jour où on aura les télés connectées à Internet, et c'est pas, on parle pas de en l'an 2000, il y aura des voitures qui volent. Les télés connectées à Internet, c'est.
on l'a tous rêvé, ça, en plus.
Ouais. Ces télés existent déjà, sont en vente aux États-Unis et devraient pas trop tarder à arriver avec ce type de. Et elles ont des widgets, des trucs modulaires qui permettent d'intégrer facilement ce type de service. Donc, c'est possible.
Ouais, alors. Moi je vais.
J'entends Cédric qui fait depuis tout à l'heure. Je sens qu'il va vouloir nous casser notre baraque.
Je vais être plus méchant que vous, mais pour moi, la location de films sur YouTube ne fonctionnera que si elle est sur la télé. Il y a vraiment trop peu d'intérêt à regarder un film en streaming sur son ordinateur à moins d'avoir un super fauteuil ou d'avoir son ordinateur connecté à sa télé.
Quand je vois le nombre de gens qui regardent, on a donné le nom d'un site justement dans la chatroom que je vais pas reciter, mais je vois la popularité qu'ont les sites de streaming illégaux et des gens à qui je demande, mais quand vous regardez cette merde, quand vous regardez cette qualité, ça vous embête pas?
Oui, mais ils ne payent pas pour ça.
Non seulement ils ne payent pas, mais au-delà de ça, on parle de qui, là? Enfin, je vois mal ma mère, alors qu'elle va louer des films au vidéoclub, je la vois mal louer un film sur YouTube et lui dire « tu le regardes sur ton ordi ».
C'est clair que ça se dirige vers un type...
Alors que ma mère, je lui explique que... Voilà, mais ma mère, je lui explique que sa musique, elle peut éventuellement l'écouter sur Deezer, sur son ordinateur. Là, ça ne la dérange pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas obligé de rester assis sur sa chaise. On monte juste le volume et puis on a sa musique dans la pièce. On peut faire autre chose en même temps. Voilà, quoi. Moi, là où je suis donc un peu plus sceptique par rapport à vous, c'est que pour moi, vraiment, la location de films sur YouTube, OK, à une condition, c'est que ça soit sur la télé. Tu parlais des télés avec connectés à Internet.
Oui, moi, je vous ai mis d'accord avant même la controverse.
Tout à fait. tu parlais des télés connectées à Internet aux États-Unis, machin, va pas aux États-Unis. Hein. Samsung fait ça très bien. Et d'ailleurs, avec Julien, mon autre compère du podcast Geeking, il a une télé connectée avec des widgets et on a les vidéos YouTube sur sa télé. D'ailleurs, on se marre assez souvent en soirée à regarder des vidéos sur sa télé. Et même au-delà de ça, j'ai un Apple TV. Oui, je sais, j'ai un Apple TV. Vous pouvez me jeter des pierres. Ah. En attendant, j'ai les vidéos YouTube dessus et ça marche très bien. Et je m'en sers surtout pour regarder les podcasts sur la télé.
Visiblement, de cette manière-là, non seulement ça va contenter les gens qui, comme moi, n'ont pas de télé ou peuvent regarder un film sur leur ordi, ou tous les gens qui regardent des films en DivX ou en DVD sur leur ordi, bah là, ils pourront le faire. Ils pourront aller, au lieu de louer un DVD, d'aller s'embêter, aller le chercher, le ramener, devoir presser une galette, etc., ils pourront le faire depuis leur ordi. Et puis en plus, effectivement, YouTube est déjà dans l'Apple TV, puis commence à être intégré dans les télés. Donc, à mon avis, ça va pouvoir contenter tout le monde.
Voilà. Moi, j'écoute plus rien depuis que Cédric a dit que sa mère écoutait Deezer.
Qu'est-ce que ça va être quand elle va découvrir Spotify?
Pas encore. Mais vous voyez, moi, il y a un truc qui m'embête vraiment avec la location de films. Ça va être le modèle économique mis derrière et la façon dont on va devoir consommer son film. Moi, ça m'ennuie très fortement. C'est-à-dire que je commence à regarder un film, on me dit « Ah ah, même si tu as été dérangé, t'as que 24 heures !» Et là, il faut enclencher le chronomètre ou le compte à rebours sur son iPhone pour se dire « Vite, sinon, tu verras jamais ton film. »
Ils proposeront peut-être 3 jours.
En fait, on ne sait pas ce qu'ils proposeront. Mais c'est tout ce qui... Parce qu'en attendant,
C'est les questions qui se posent après, déjà.
Exactement. Si jamais ils le font, il faudra voir quel système ils vont appliquer derrière. Parce que quand on voit même Canal Play, par exemple, sur la PSP ou autre, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule. On loue son film, on a un mois pour le regarder, et une fois qu'on l'a commencé, on a 24 heures pour le finir, sinon, adieu. Ouais. Et en plus, on le paie cher.
C'est super cher, c'est ça le souci. Mais à la rigueur, moi je préfère qu'on me retire l'accès au film plutôt qu'on continue à débiter ma carte dans le vidéoclub du coin pour ceux qui ont déjà eu l'expérience de la machine qui tombe en panne.
Ouais, voilà. Non, mais d'accord. Mais voilà, bon, c'est une bonne idée de faire de la location de film.
Mais ça dépend
encore
comment.
Une fois, autant le streaming sur la musique, ça me pose pas de problème. Sur les films, je vous rappelle juste comme ça qu'on n'a pas tous le haut débit en France. Au-delà de 512, quoi. Enfin, dans les grandes villes, oui, mais il y a quand même beaucoup. Moi, je suis de Bordeaux, hein. Donc, à Bordeaux, ça va, je l'ai, mais à quelques kilomètres, déjà, on se retrouve avec de la DSL 512.
Non, c'est sûr,
mais
on peut pas faire le monde pour les gens qui n'ont pas le haut débit.
J'espère justement qu'ils feront des versions, comment dire, si tu loues ton film et que tu le veux en HD, tu payes 3 euros. Si tu loues ton film et que tu le veux en qualité, bonne qualité d'encodage, mais qualité YouTube, tu l'auras moins cher.
Tu payes 4 euros.
Oh non, c'est bon, ça va. On a un format et puis voilà, on va pas attendre que le reste du monde nous.
Ouais, non, ce qui serait génial finalement, ça serait un vrai format unifié. Encore une fois, on tombe sur les histoires de standards, mais bon. Ouais.
Bon, on commence à s'écarter du sujet, mais je pense qu'on a compris que.
Ça peut être bien. Voilà. Ils peuvent faire quelque chose.
Et puis une fois que c'est fait, c'est toujours possible d'arranger par la suite, quoi.
Ouais, à mon avis, eux, ils veulent rentabiliser, donc à mon avis, ils vont pas faire comme tous les catalogues de films, se lancer, faire plein de pubs, se rendre compte que personne, ça intéresse personne, et puis rien toucher. À mon avis, Google, ils ont vraiment envie de rentabiliser leur YouTube.
Mais ça veut aussi dire qu'il va falloir faire la chasse aux séries et aux films uploadés sur YouTube de façon illégale, quoi.
Ça, c'est déjà pas mal fait, hein.
Ouais, mais enfin, on en trouve quand même beaucoup, hein.
Ouais, mais ça reste pas très longtemps.
Oui.
Google Checkout. Les journaux. C'est en fait une initiative qu'a lancé Google. Si vous ne connaissez pas Checkout, en fait, c'est un petit peu comme PayPal. C'est un système qui vous permet d'avoir un porte-monnaie en ligne qui est lié à votre carte bleue et qui vous permet très facilement de faire des petits paiements sur les sites
de partout.
Enfin, de un petit peu tout. Oui, le principe,
les boutiques en ligne, c'est un peu comme PayPal.
voilà. L'Android
Sauf
Market.
Que c'est presque pas utilisé. Bon, sur Android, forcément, c'est un produit Google. Mmh. Mais c'est très.
Est-ce que tu sais si aux États-Unis c'est beaucoup utilisé? Parce qu'il y a qu'en Europe, beaucoup, non.
Non, pas beaucoup. C'est vraiment l'infrastructure est là, mais c'est pas très utilisé. Et ce qu'ils ont proposé pour aider les journaux, en disant bon, on est en train de vous bouffer votre business, mais on va vous filer un coup de main, c'est de proposer des des picopaiements, en fait, qui seraient des paiements de quelques cents pour accéder à un article et d'intégrer ce système à Google Checkout. Alors, la manière dont ça fonctionnerait, c'est que vous êtes en train de lire Le Figaro, par exemple, et vous avez un article qui vous intéresse, ils vous en donnent une petite partie gratuitement, et ils vous disent, pour lire la suite, vous payez 5 cents. Donc, vous payez, et au bout d'un mois ou deux mois, quand vous atteignez 10 euros de facture, à ce moment-là, Google Checkout vous débite et paye les gens qui vous, à qui vous devez de l'argent. Bon, on espère que ça fonctionnera, mais on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Et puis surtout, ça demande une réorganisation des journaux. C'est plutôt aux États-Unis, hein. J'ai donné un exemple français, mais c'est plutôt aux États-Unis. Par contre, je crois que c'est Mathieu qui a parlé de l'exemple de PC Impact et de Libération.fr.
Ouais. PC Impact, ils ont sorti leur abonnement. C'est 35 euros par an ou 3 euros par mois.
Mmh. Et ça donne droit à quoi alors? On n'a plus accès à PC Impact
Non, tu as accès à PC Impact. Et si j'ai bien compris, si tu payes, tu n'as plus aucune pub. Et c'est vrai qu'elle était devenue de plus en plus envahissante.
La technique de la mort.
Pourquoi pas. Mais en gros, donc, PC Impact sort sa version payante. Pour le moment, si tu payes, tu n'as juste plus la pub. Et ils vont sortir leur toute nouvelle version. Parce que c'est vrai que le site n'avait pas bougé depuis beaucoup de temps. Ils vont sortir leur nouvelle version et je crois qu'il y aura du contenu exclusif ou du contenu réservé aux gens qui payent, tout en restant un site grand public de l'actualité et un très bon site pour moi de l'actualité informatique. Et Libération a sorti aussi donc sa version partiellement payante sur Internet. On va voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup de gens qui y croient pas, d'autres qui disent oui, d'autres qui disent ça dépend des conditions. À mon avis, il faut qu'il y ait deux gros sites qui se lancent et que j'espère pas qu'on les voit se casser la figure, mais qu'ils puissent réussir à trouver vraiment un modèle économique qui leur permet vraiment de vivre de ce qu'ils font.
Moi, je prédis dès aujourd'hui que cette histoire va tomber à l'eau d'ici quelques mois.
Mais bien que, par exemple, tu sais, on a le même avis là-dessus, mais bien que quand PC Impact, ça fait depuis un an qu'ils font des sondages là-dessus, t'as constamment 2 à 5 000 personnes.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
C'est pas beaucoup par rapport à l'audience qu'ils font, mais t'as 2 à 5 000 personnes qui ont répondu à chaque fois oui, moi je suis prêt à payer jusqu'à 3 euros par mois. Et ne serait-ce que 3 000 personnes qui payent 3 euros par mois, ça permet de faire rentrer des ronds et puis au moins être sûr de pouvoir payer
une
ou deux personnes.
T'imagines 10 000 euros par mois, c'est enfin pour un site comme PC Impact, j'imagine qu'ils ont des.
Oui, pour un site comme PC Impact, c'est rien du tout, mais ça peut.
Parce que le problème, c'est que.
Ça peut être une bonne base.
Je suis pas certain. Le problème, c'est qu'ils font un site comme ça et ils font un nouveau site qui va être accessible uniquement
au premium.
Au premium. Et du coup, leur ancien site qui est gratuit devient de plus en plus vieux et de plus en plus dégueulasse.
Ah non, donc... en fait, ce sera le même site. Pardon, ah, je me suis exprimé. Ce sera le même site, sauf que si tu payes pas, tu auras de la pub partout, comme c'est actuellement sur tous les sites, et que bah, tu auras accès aux news, etc. Et visiblement, donc si tu payes, déjà, tu n'as plus la pub, ce qui, franchement, ça, ça te change le site. Tu as l'impression de ne pas être sur le même.
Ouais.
Et visiblement, il y aura des contenus exceptionnellement exclusifs. Ou voilà. Donc,
ouais, mais, bon, mais par exemple, là, il faut voir après voilà, ce que viennent chercher les gens sur PC Impact. Si c'est de l'actualité, il y aura toujours un site à côté qui proposera la même actu finalement gratuitement. Donc,
oui, c'est totalement.
Il faut faire attention à pas faire fuir son audience.
Les contenus super exclusifs, autant j'aime beaucoup Internet, autant enfin, il est évident que ces contenus super exclusifs se retrouveront quelque part piratés, liés sur les forums. Les gens qui veulent vraiment les obtenir réussiront à les obtenir. Enfin, moi, je leur souhaite de réussir, hein, mais j'y crois pas à ce modèle. Mais enfin bon. À la limite, un truc comme Google Checkout, ce que veut mettre Google Checkout en...
C'est pas mal, hein.
L'idée, c'est que la somme est tellement dérisoire que tu vas te mettre à le faire régulièrement. C'est un petit peu comme ce qui se passe avec les applications sur l'iPhone.
Exactement.
Tout le monde, quand tu as ton iPhone au début, ce que tout le monde se dit, c'est « Oh, mais moi, je vais prendre des applis gratuites, quoi.
Mensonge, vous mentez à vous-même. Ouais, mais...
et, alors, au début, tu prends que les applis gratuites, effectivement. Et puis, un jour, il y en a une qui a l'air marrante, dont quelqu'un...
Ou tu lis un article et tu vois qu'elle est excellente.
Voilà, et qu'elle coûte 99 centimes. Alors, tu te dis, bon, 99 centimes, je prends c'est un café, rien. Ça me coûte le double. Ouais. Bon, allez, je vais me prendre 99 centimes. Tu commences comme ça. Au bout de deux mois, tu te retrouves à acheter des applis à 5 euros tous les jours, quoi. Enfin, bon, peut-être pas tous les jours, mais... Tout ça pour dire que si c'est super simple et tu cliques à l'impulsion, tu dis bon, j'ai un article là qui a l'air de m'intéresser, pof, 10 centimes, je l'achète, c'est beaucoup plus simple. Excusez-moi, j'ai un écho là, je sais pas si l'un de vous a.
Je l'ai aussi.
Non.
Ah, bon, c'est Skype qui fait des siennes.
Tu es dans ta grotte.
Voilà.
Non, mais je pense aussi que c'est une bonne idée. Mais après, je me dis quand même, Google, ils sont quand même malins, tu vois. Ils distribuent des bouts d'articles des journaux. Donc il y a plein de gens qui vont sur Google Actualité qui continuent d'utiliser Google et avoir le réflexe Google. Il y a plein de journaux, la Belgique qui gueule, qui machin, on veut des sous, on veut des sous. Et eux, ils ont cette petite idée. Ok, d'accord, on a une petite idée. On peut faire ça comme ça, mais par contre, il faut utiliser notre système checkout à nous. Je me dis, ils sont quand même vraiment pas bêtes. Ils sont vraiment pas bêtes.
Ça, ils perdent pas le nord. Wikitrust,
même si l'idée...
la confiance sur Wikipédia. Alors, vous savez que Wikipédia, alors pour ceux qui savent pas, tiens, on a l'habitude de dire que le Rendez-vous Tech, c'est l'émission qui réussit à faire à la fois du contenu pour les grands spécialistes et pour les néophytes. Et ben, on va vous expliquer comment fonctionne Wikipédia si vous n'êtes pas encore au courant. Wikipédia, c'est une encyclopédie qui est mise à jour par les utilisateurs. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir et mettre à jour un document et modifier un document ou créer un document. Donc si, par exemple, vous êtes un spécialiste de la reproduction des galinettes cendrées, vous pouvez aller créer un document sur les galinettes cendrées et mettre une grosse partie sur leur parade.
Cendrée.
Sur la parade nuptiale de la galinette cendrée, par exemple. Eh ben,
c'est pas dans un sketch des Inconnus, ça ?
C'était un sketch des Inconnus, tout à fait un connaisseur, Mathieu, bravo.
Oui.
Le problème de ce type de système, c'est que, d'une part, enfin, c'est pas un problème, mais la première chose, c'est que, contre toute attente, ça marche super bien. Je me souviens, quand j'en avais parlé la première fois, mes amis me disaient « Mais attends, ça va marcher pour l'histoire de Star Trek et des Klingons, mais pour les trucs sérieux, ça va jamais marcher. » Eh ben... Il se trouve que ça fonctionne très bien, d'une part. Et d'autre part, le problème, c'est que, par contre, il y a des problèmes de fiabilité. Quand n'importe qui peut venir mettre un article ou le modifier, évidemment, on se demande si on peut en leur faire confiance. Ils ont différentes parades pour ce type de choses. Ils ont un historique, par exemple. Donc, si on est un petit peu connaisseur, on peut aller voir quand a été modifié l'article. Donc, s'il y a un truc dans l'actualité, on va voir la biographie de quelqu'un qui est mort, par exemple. Si elle a été modifiée 5 minutes avant, on peut se dire que c'est un petit malin qui s'amuse à répandre des fausses informations. Ils ont plusieurs techniques pour ça. Et la dernière qu'ils ont mis en place, qui est géniale, c'est l'idée que les gens qui vont avoir plus d'ancienneté sur le site et qui sont plus fiables vont être présentés avec des couleurs qui seront différentes. Alors ça sera fait pour les intervenants et pour les mots. C'est-à-dire que s'il y a une partie d'un article qui a été modifié récemment par une personne qui n'est pas très fiable ou dont on n'est pas certain qu'elle soit fiable, elle va apparaître en orange par exemple. Et si l'article est entièrement fiable, il sera dans sa couleur normale. Donc ça permet de voir de manière très visuelle ces changements soudains qui sont suspects. Et ça aide encore à faire le tri très facilement entre ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas. Moi, je trouve que c'est une idée qui est simple. Et en plus,
ça va rendre un peu plus joli Wikipédia, c'est bien.
Exactement. Ça va donner un peu de couleur.
Ça met un peu... Non, mais c'est vrai que je trouve l'idée super. Parce que c'est vrai que autant Wikipédia, c'est un outil merveilleux. Enfin, comme dit les gens qui ont créé ça, je pensais pas qu'ils se disaient au début que ça allait faire couler toutes les encyclopédies, que ça allait être un des sites les plus visités au monde et qu'ils allaient devoir créer toute une organisation. Mais là, en plus, effectivement, ça pourrait régler pas mal de problèmes. Ça pourrait, comme tu dis, faire le tri. Tu vas sur un article, tu vois que tout est écrit en noir, sauf une partie en orange qui est bien mise à part. Et tu peux, c'est en plus, ils peuvent faire ça aussi avec des trucs qui peuvent être des fois un peu trop anciens. Franchement, ça peut être bien.
Bah, ça va permettre justement finalement à Wikipédia de devenir crédible, et puis tous les petits écoliers de France vont pouvoir maintenant faire des copier-coller de Wikipédia sans revérifier les informations derrière, et ça c'est génial.
Bah, ils le faisaient déjà pas, les informations. Des fois ils copiaient-collaient puis ils imprimaient directement.
Oui, mais là oui, cette fois-ci ils n'auront plus besoin de vérifier, c'est génial.
Bon, je passe à une partie qui fait plaisir à tout le monde et qui va évidemment vous enchanter, puisque nous avons le jingle de Cédric qui fait
la minute, le quart d'heure, la demi-heure Twitter.
Et on parle de Twitter, et bien sûr, qui parle de Twitter parle aussi de Facebook en ce moment. Twitter, vous vous souvenez qu'on avait eu une grande polémique sur le fait que les ados tweetent ou pas, ou que les ados préfèrent Facebook ou Twitter, enfin on savait plus ce qu'il en était, parce que certains nous disaient non, moi je suis ado et je tweete beaucoup, moi je suis non, machin. Ça venait en fait d'une histoire d'un jeune homme qui avait fait un papier très intéressant et très bien construit, où il expliquait pourquoi il préférait Facebook à Twitter. Le truc, c'est que c'était, tout intéressant qu'il soit, ce papier était complètement anecdotique puisque c'était une personne qui l'avait fait. Et on a eu maintenant des données un petit peu plus fiables sur le sujet. Et il en ressort qu'en fait, c'est pas que les ados tweetent moins que les autres, c'est que personne ne tweete. Le problème, c'est qu'en fait, il se trouve que sur Twitter, les ados représentent 11% de la population, et sur Facebook, ils ne représentent que 9%. Donc, il y a même plus d'ados sur Twitter que sur Facebook. Mais par contre, d'une manière générale, sur Twitter, il n'y a pas grand monde à la base. C'est encore très jeune, et donc personne ne tweet, et accessoirement, peu de gens Facebook aussi, même s'il est plus populaire. Donc voilà, c'était une clarification assez intéressante. une clarification assez intéressante de savoir que finalement, oui, il y a plus d'ados sur Twitter que sur Facebook. Alors qu'on
peut-être que bientôt on aura des tests sur Twitter et puis on pourra voir le résultat en direct. Pas mal.
Des tests ? Comment ça, des tests ?
Comme sur Facebook.
Ah, des tests genre, oh mon dieu. mon dieu. Genre des applications, combien de ninjas pouvez-vous tuer
voilà. C'est génial ça. Non, mais t'as raison, en fait, on est très peu à tweeter. Et ouais, voilà. Finalement, dans l'espace, personne ne vous entend tweeter. Hein. C'est ce qu'il faut retenir. Enfin, que dire ? Moi, je sais que quand même Facebook... Après, il faut relativiser, hein, mais moi, je parle de Twitter. Dans ma famille, personne ne connaît. Facebook, tout le monde, par contre. Hein.
Non, mais Twitter, au moment de son évolution, où était Facebook il y a 3 ans ? Moi, je me souviens, je suis sur Facebook depuis un petit peu plus longtemps que... Je ne sais pas, ça doit faire 3 ou 4 ans. Quand j'en parlais à l'époque, en France, personne ne connaissait Facebook, quoi. Et ça commençait à devenir déjà assez gros. Les gens étaient encore vaguement sur MySpace ici. Copain d'avant, oh mon dieu.
La version HTML statique de Facebook.
Et Twitter est en train de progresser plus vite que Facebook à l'époque. Donc, il ne fait aucun doute que Twitter va devenir incontournable, ou du moins aussi incontournable que ne l'est Facebook aujourd'hui. Mais bon.
Mais Facebook va riposter avec son light et tout ça, enfin.
Et ben justement, tu nous offres une transition invraisemblable puisque Facebook a lancé Facebook Lite, accessible depuis l'adresse lite.facebook.com, qui est une version super simplifiée de l'interface de Facebook où à terme tout sera disponible. Donc on se demande un petit peu à quoi sert l'ancienne interface si la nouvelle fait tout.
C'est une purge pour moi.
Ouais. C'est
Facebook Lite, c'est une purge. Non mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que
non mais tu dis ça en plaisantant, mais effectivement.
Ah non, je plaisante pas.
C'est bon, tu dis ça sérieusement et tu as raison. C'est ce que je voulais dire.
Pour moi, c'est une purge. C'est-à-dire que Facebook, là, à l'heure actuelle, avec toutes les applications, toutes les saloperies, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Moi, je reçois 50 invitations d'apéro par jour. On m'offre je ne sais pas combien de nounours. Et on veut me faire entrer dans 50 000 gangs de mafieux. Bon, mais je m'en fous. Lâchez-moi avec ça, putain. Donc, j'ignore tout et je fais tout ignorer. Et d'ailleurs, quand on me repropose deux fois, j'ignore toutes les invitations de cette personne. Hein. Comme ça, au moins, c'est réglé. Ça commence à m'énerver. Et bien là, Facebook Lite, pour moi, c'est finalement... ben voilà, ils recommencent à zéro et petit à petit, ils vont réintégrer les fonctions. Alors, j'espère qu'ils s'arrêteront aux gangs de... Enfin, la guerre des gangs et compagnie, là. Hein, oui. Que ça, ils le laisseront pour les Facebook old school. Et qu'ils se concentreront sur, finalement, ce à quoi destiné Facebook, la communication. Exactement. Mmh. On a perdu de vue ça et les gens vont sur Facebook comme ils iraient sur un portail de jeux en ligne avec des jeux en flash, quoi. La plupart des gens, c'est ça. Sauf qu'en plus, ils ont un petit chat intégré, comme ça, ils peuvent discuter avec leurs amis.
Ah, mais finalement, les désactiver, tout de suite, quoi.
Ah, mais
le chat, c'est même pas la
peine. Ah non, mais l'avantage, c'est qu'en fait, ben, au boulot, on ne peut pas installer MSN, par exemple, sa machine où c'est bloqué par l'admin, mais Facebook n'est pas bloqué, ben, du coup, on a quand même le chat. En même temps, on a des jeux, des petits jeux en flash, des petits jeux machin, enfin... Voilà, c'est vraiment ça. Facebook, c'est devenu le gouffre à pognon des entreprises modernes. Parce que c'est ça, les employés sont plus productifs, ils passent leur temps sur Facebook.
Et mais il y a toujours eu ce problème.
On a, dans la société dans laquelle je travaille, Facebook a été bloqué il y a à peu près 15 jours. Et je vous jure qu'il y a eu
une révolution.
Ah ben en fait la bande passante, l'utilisation de bande passante a été divisée quasiment par deux, donc
oh, excellent.
Donc là au moins c'est réglé et c'est véridique. Voilà, Facebook Lite, ça sert que ça serve vraiment qu'à la communication. Finalement comme Twitter.
Twitter, en fait c'est ce que. Pardon, vas-y.
Non mais Twitter, c'est pour ça que j'adore Twitter et que finalement Facebook j'y vais quasiment jamais et j'adorais embêter mes amis de Facebook en leur postant mes statuts Twitter automatiquement parce qu'ils recevaient 50 updates par jour et ça les embêtait quoi. Mais je les spammais en fait. Mais voilà, l'avantage de Twitter c'est que c'est vraiment de la communication. Facebook c'est devenu devenu un portail de jeux en ligne quoi.
Et ben justement Facebook Lite, tout le monde a vu ça comme un moyen de se rapprocher de Twitter et c'est pas le seul signe qu'ils ont montré de cette copie en fait. Ils sont en train d'implémenter une autre fonction qui est la fonction des at replies. Donc le petit signe at, voilà la mention d'une personne, c'est-à-dire que si on met at avec le nom d'une personne dans le message, la mise à jour de son statut, et ben ça va mettre un lien vers cette personne. Donc c'est un moyen voilà, exactement. C'est la manière dont ça fonctionne sur Twitter. Et c'est un moyen d'avoir des conversations relativement facilement et de signaler à cette personne qu'on parle d'elle. Et ça facilite beaucoup les échanges. Et c'est un truc qu'ils sont en train d'implémenter sur Facebook. Et c'est un des X signes qu'il y a de ce rapprochement qu'il y a de Facebook par rapport à Twitter, de cette copie finalement. Et depuis le rachat en fait qu'ils ont fait de FriendFeed pour d'autres raisons, moi j'ai commencé à penser que Facebook pouvait vraiment à terme remplacer Twitter en intégrant plus ou moins les technologies de Twitter, et pour le moment c'est pas du tout le cas et on va voir ce que va faire Twitter de son côté, mais il y a une véritable possibilité qu'un jour Facebook ait assimilé cette manière de fonctionner simple et agréable de Twitter et en remplace finalement le remplace pour certaines utilisations, voire pour toutes les utilisations, et qu'il inclut l'ensemble de ces technologies et de ces usages.
Moi, j'espère qu'ils vont garder les messages directs quand même sur Facebook Lite.
Ah bah oui, bien sûr.
Non, mais je plaisante quand je dis ça. Mais voilà, mais
j'ai pas compris, toi.
Moi, pour moi, c'est vraiment ça. En fait, ils repartent à zéro. Et c'est le brouillon, hein, Facebook Lite. Et là, ils sont en train de rajouter petit à petit les fonctions. De toute façon.
Mais d'ailleurs, il y a un autre signe, c'est qu'ils sont en train. Vous pouvez déjà la télécharger si vous êtes sous Mac. C'est une application Facebook uniquement pour Mac qui vous rajoute un petit F à côté de l'heure et vous pouvez accéder aux notifications, à vos messages, à vos mettre à jour votre statut sans besoin de lancer le site. Vous avez tout dans un petit menu à côté de l'heure.
Et à propos des applications super pratiques, l'application Facebook est sortie, je ne sais même plus si on en avait parlé dans l'épisode précédent, mais l'application Facebook pour iPhone est sortie et elle est magnifique.
Oui, la nouvelle version.
Bien faite. Oui, la nouvelle version, tout à fait, ouais. Donc, à recommander aussi.
Par mais je n'ai pas encore le push.
Ça viendra. Par contre, il paraît que Facebook rend intelligent et Twitter rend con.
Alors là, bah, je
totalement, je confirme.
C'est toi qui as ajouté cet article, Mathieu, non?
Dans les ouais, notes. Mais en fait, quand tu réfléchis à la réflexion du mec, c'est pas faux, mais en même temps, dans la réalité, dans les faits, je suis pas très d'accord. C'est-à-dire que la réflexion du mec, c'est de dire et de faire l'étude. Bah voilà, quand vous êtes sur Facebook, vous faites des jeux, vous lisez des longs messages, vous faites travailler votre mémoire, vous êtes un mafieux dans Guerre des Gangs, vous faites du sudoku, vous faites plein de trucs qui font travailler
votre QI.
Vous testez votre QI, vous faites plein de tests débiles qui vous posent des questions, qui font appel à votre mémoire. Et c'était quoi? C'était une sonnette portable?
Mais j'arrête pas de dire aux gens, mon ordinateur est super vieux, j'arrive pas à faire les trucs comme il faut que j'ai un truc un petit peu plus moderne. J'étais en train de préparer la transition pour la partie suivante et ça s'est mis à jouer. Donc...
D'accord.
Pardon, elle a l'air continue, pas mal, fais comme si ça n'était pas arrivé.
Elle a l'air pas mal cette transition. Donc en fait, c'est voilà la réflexion du mec, c'est de dire voilà sur Facebook vous faites plein de trucs qui même si c'est totalement débile, ça fait travailler votre mémoire, ça fait travailler telle zone du cerveau, machin tout ça. Alors que sur Twitter, on vous donne une information qui est super courte, elle fait absolument pas appel à votre réflexion et à votre mémoire. Et même la plupart du temps, et je l'ai testé, c'est que les gens retweetent sans même cliquer sur le lien. C'est-à-dire, si maintenant tu balances un gros message, nouvelle version de tel logiciel gratuit, et tu fous un lien, ça peut être un lien qui part n'importe où, tu peux être sûr que j'ai fait le test, écoute, un tiers des followers, hop, ils retweetent sans même avoir cliqué sur le lien et se rendre compte que c'est une connerie.
Oui, bon, ça peut être pratique pour mettre des liens vers Geekink et leur faire envahir le monde.
Ouais, merci.
En disant qu'il y a quelque chose qui devient gratuit ou qu'il y a une promo de 50% sur les Macs.
Ou j'offre mon foie.
Votre Mac a 50% gratuit.
Ouais. Grâce à Geekink.
Ouais,
il suffit d'envoyer votre facture à Cédric et il vous remboursera par virement.
Ouais. Il vous envoie un morceau de foie et vous en faites dans à Steve et donc vous avez une remise de 10% ou un truc comme ça. Ouais.
Donc en fait, tu te dis oui, bon, d'accord, mais par contre, c'est vrai que Twitter, c'est vraiment l'outil, moi je vous le dis pour ma propre expérience, qui m'a permis de faire des choses, de rencontrer des gens. Donc peut-être que sur le coup, ça fait peut-être pas travailler ta mémoire qui te demande de te rappeler d'informations ou de trucs complètement débiles, mais par contre ça sert après, tu vois, c'est Twitter, ça sert à rien sur le moment mais ça va servir après. Facebook, ça fait travailler ta mémoire à court terme et à long terme en faisant du sudoku.
Ouais. Voilà. Moi, je préfère jouer aux jeux vidéo, hein, pour mes réflexes, ma mémoire et tout ça, ça marche bien. Donc finalement les jeux vidéo ne rendent moins con que Twitter peut-être.
Oui, c'était ça aussi. Bah oui, bon, moi je trouve que c'est un truc de voilà.
Moi je trouve que cette histoire a eu beaucoup de traction sur le web parce que c'est marrant de dire que Twitter rend con, mais franchement.
Mais c'est ne pas prendre en compte en fait la réalité, se baser uniquement sur l'activité cérébrale et trucs. Donc
non, et puis
ça
même,
reste...
je veux dire, sur Twitter, il y a des liens qui sont très intéressants. Ça t'amène vers des histoires du New York Times quand quelqu'un envoie un lien vers le truc comme ça.
C'est ça, ça prend pas en compte la réalité et ce que l'information peut être traitée, ce que ça peut créer comme interaction plus tard. C'est vraiment bête et méchant.
Par contre, même nous, on en a parlé parce que ça faisait marrant de dire Facebook rend intelligent et Twitter rend con. Comme quoi.
Voilà.
Bon, on passe à...
la séquence des rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
Merci Cédric pour cette merveilleuse transition.
Ils sont toujours aussi bons.
Alors, première rumeur qui n'en est pas vraiment une. Le web a 40 ans.
Joyeux anniversaire.
Jours, voilà, il y a quelques jours, on a fêté les 40 ans, pas vraiment du web, mais d'Internet en fait.
Ouais.
C'est quel jour exactement, on le sait ?
Il y a une grosse, polémique là-dessus parce qu'il y en a qui disent que c'est le, je crois que c'était le 9 septembre.
Ou le 8.
Ouais. Et il y en a qui disent que non, pas vraiment parce que ça a vraiment été mis en place le 29. Et enfin, disons que c'est l'année où le web a 40 ans. Hein. On va dire c'est 1969.
Et après, il y en a qui vont dire non, mais avant Internet, il y avait ARPANET, c'était aussi un réseau. Voilà, il y a plein de.
Non, mais je crois que c'était justement la base de ARPANET, c'était la première transmission entre deux ordinateurs en fait.
Oui, là, c'était le 40 ans, c'était vraiment le fait que deux ordinateurs soient séparés de 4,5 mètres et réussissent à échanger des paquets d'informations. Voilà, 40
ans. C'est incroyable.
C'était invraisemblable. Mais il faut voir quand même, non, mais il faut se rendre compte que c'était en 1969.
Ah oui.
Donc, je veux dire, nous, on n'était pas nés, déjà. Enfin, je crois. Hein.
Non.
D'accord, ok, donc nous on n'était pas nés.
Et il n'y avait pas de système, il n'y avait pas d'interface graphique, il n'y avait rien du tout, c'était vraiment.
Pensez, alors soit vous, si vous êtes un petit peu plus âgé, soit vos parents, imaginez vos parents, quel âge ils avaient à ce moment-là, en 1969, et déjà il y a des gens dans des laboratoires qui étaient en train de créer Internet, donc c'est.
C'est dingue, c'est intéressant. Ça me fait rêver. Vraiment, c'est.
Juste deux petites choses. D'une part, Engelgue. Non, pardon, excusez-moi. Je parle de gens qui sont dans la chatroom. Merde, je retrouve plus. Il y a quelqu'un qui dit pané comme les poissons.
Il a été removed par magie commun.
D'accord. Le temps de la voix, Magico, donc.
Plus rapide Alex, que son ombre.
Alex l'a supprimé en disant cette blague ne méritait pas de survivre. Et je crois qu'il a raison. Bref, donc, l'autre anecdote qui était marrante, c'était le fait qu'ils ont voulu transmettre le mot login. Donc, c'était les lettres, une à la fois, qui passaient péniblement. Ils ont envoyé L, c'est passé, puis O, puis c'est passé, et l'ordinateur a planté après le O. Donc, finalement, ils ont envoyé LO. On peut se demander s'ils voulaient envoyer LOL, en fait, et pas login. Mais...
Non, ou LO.
Hello.
Ah, oui, le langage SMS, LO, c'était LO.
C'était déjà le langage SMS, voilà.
C'est vrai. Donc, ils ont inventé le langage SMS en même temps. Autre nouvelle, c'est que Google Chrome a un an, déjà un an, le navigateur le plus rapide de l'histoire, même plus rapide que Safari, malgré ce que dit Apple.
Ouais.
Ça, après, tu vas lancer le débat, ça dépend sur quel système. Avec
voilà, sur le Snow Leopard 64 bits, ça roule. Hein.
C'était une énorme perche pour Mathieu qui ne l'a pas vraiment saisi. Il a fait une remarque vaguement pondérée, donc c'est même.
Non, mais parce que voilà, comme ils ont lancé Chrome, ils sont déjà à la version 4 sous Windows. Sous Mac, elle n'existe toujours pas. Enfin, ouais.
Ouais, bon, voilà. C'est plutôt ce type de réaction que j'attendais. Un truc complètement partisan. Voilà, ça c'est bien.
Non, mais ce serait bien qu'ils fassent un peu ce qu'ils disent, qu'ils fassent comme Firefox.
Moi bon, je suis enfin, pas bref. Pour qu'ils fassent comme Firefox.
Je parle au moins qui voilà, quand ils sortent une version. Je parle pas à ce niveau-là. Non, mais je parle vraiment. Firefox a au moins l'avantage de quand ils sortent une version 3, mais c'est pour X système en X langage. C'est assez impressionnant l'organisation. Et c'est, je crois, un des seuls projets aussi gros. Même OpenOffice ne fait pas ça, que quand ils sortent une version, elle est dans toutes les langues, elle est pour tous les systèmes. Moi, je suis toujours assez impressionné. Et il n'y a que dans ma tête. Ça.
Non, c'est pas vrai. iTunes aussi, il sort en version 9 sur PC, sur Mac.
Bon, moi, je m'en fous, j'aime bien Google Chrome. Voilà, c'est ma conclusion. Autre nouvelle qui est un petit peu une spéciale Yann Allais, lui qui est le grand anti OnLive. Et ben OnLive est entré en bêta tout à la fin de l'été. Ils ont dit qu'ils allaient rentrer en bêta dans l'été. Bon, ils sont un petit peu à la fin. Donc OnLive, c'est ce système qui permet de jouer en ligne sans rien avoir sur son ordinateur.
Même
bon,
sa télé.
Je vais pas... Voilà, comme sa télé, c'est un petit peu... On pourrait jouer sur une télé sans même avoir de console, hein, je schématise. Si vous voulez avoir plus d'infos, référez-vous aux épisodes précédents. Mais il est enfin rentré en bêta, donc il est sur les rails. C'est une excellente nouvelle.
Et ça marche plutôt bien.
Tu as eu les premiers...
Les premiers retours, ça marche très très bien même. Mais encore une fois, on est sur une bêta qui n'est pas à grande échelle, donc on ne peut pas...
Mais de toute façon, je pense que le débat n'en est pas un, parce qu'il est évident que ça va marcher. La seule question est-ce que ça va vraiment marcher sur des jeux spécifiques qui nécessitent une latence réduite, comme des jeux de tir ou ce genre de choses. Mais sinon, le système online reste, sur des jeux un petit peu plus lents, il est évident que ça va marcher et que ça va être une énorme machine. Donc,
A priori, ça fonctionne bien.
Par contre, il va quand même falloir se prévoir un budget, parce que tu vas devoir payer tous les mois pour écouter ta musique sur Spotify, tu vas devoir payer des centimes d'euros pour lire les articles, tu vas devoir payer un petit peu partout pour louer tes films sur YouTube. Ça devient quand même payant de partout, hein.
Mais c'est pour ça que moi, c'est toujours payant. C'est aujourd'hui, c'est payant.
Attends,
hein, c'est
voilà, aujourd'hui, t'achètes un jeu, tu le payes 70 €. T'achètes un DVD, tu le payes. T'achètes un morceau de musique à l'unité ou à l'album, tu payes. Hein. Enfin, normalement.
Moi, je préfère effectivement payer mon abonnement à OnLive 14 €
et avoir tous les jeux
et avoir tous les jeux disponibles en permanence plutôt que de payer, même si j'achète 3 jeux par an, ça revient finalement au même. Donc.
Ça revient au même, exactement.
Ouais. Spotify, tu en parlais, il est enfin disponible sur l'iPhone, donc contrairement à ce qu'on pensait, Apple ne l'a pas bloqué et ça a peut-être
les petits lutins l'ont validé.
Voilà. et il est alors les gros avantages, c'est que il fonctionne bien, c'est uniquement pour les membres premium, donc les gens qui payent le service Spotify, qui est à combien, 10 € je crois par mois,
9,99 €.
Voilà.
Donc ça vous permet d'écouter toute leur bibliothèque en streaming autant que vous voulez. Un truc intéressant, c'est que vous pouvez également télécharger des morceaux et des albums sur votre téléphone pour pouvoir les écouter quand vous n'avez pas de réseau. Même si en 3G ça fonctionne très bien, là vous pouvez également en télécharger autant que vous voulez, a priori. Par contre, l'énorme problème, c'est que, étant donné la nature un petit peu fermée de l'iPhone, quand vous fermez l'application, donc quand vous voulez passer, aller sur Internet, par exemple, ou faire autre chose en même temps avec votre iPhone, ça ne fonctionne pas comme l'iPod qui est intégré, ça interrompt la musique.
Donc, et
ça,
justement, c'est... Cédric, Spotify sur Android, en tâche de fond, voilà.
Il fonctionne en tâche de fond, et même mieux que ça encore, dans le menu notification en haut, on a carrément un petit symbole lecture qui apparaît, et en descendant avec son doigt le menu notification, on voit la piste qui est en train d'être lue, on peut cliquer dessus pour la mettre en pause et tout ça. C'est vraiment super bien intégré.
Là, je crois qu'on touche au seul véritable reproche que j'ai à faire à l'iPhone, c'est qu'à un moment, il va falloir qu'ils ouvrent une API, enfin un système, pour permettre aux développeurs au moins de jouer de la musique.
Certaines applications, en fait.
Voilà. Peut-être d'autres aussi, mais au moins la musique, c'est évident. Il va falloir que ça soit ouvert à ce niveau-là et qu'on puisse continuer à jouer la musique quand on fait autre chose. C'est possible sur l'iPod de l'iPhone, donc c'est possible. C'est un handicap énorme pour ce type d'application.
Ouais, mais quelque chose me dit que tant qu'il n'y aura pas eu un procès pour dénoncer ça, ils ne bougeront pas. Je dis ça, je dis rien, hein, mais voilà, non, il faudra attendre l'OS 4.0, quoi.
Voilà, sans doute. Bon, on avait toute une série d'autres nouvelles qui étaient plutôt marrantes, mais pas essentielles, donc on va passer outre, et on va passer directement... on n'a pas d'explication d'Arnaud, je crois que ça fait la deuxième fois, en fait, qu'il est... Arnaud est un petit peu paresseux en ce moment, hein. C'est un petit signal pour que... vas-y, tu peux en renvoyer. On a besoin de tes explications, on les aime. Mais par contre, on a une tripotée de sites fantastiques. Je crois que c'est Mathieu qui s'est lâché.
Ah ouais, puis j'en avais 10 autres. je peux te faire toute l'année si tu veux.
Non, mais garde, vas-y, fais-nous les quelques-unes et puis garde les autres pour les fois suivantes.
Alors, on va commencer le plus rapide et le plus pratique. Alors, je vais poster le lien dans la chatroom. C'est www.sxc.hu. Alors, l'adresse fait super peur, mais c'est un site qui existe depuis maintenant, plus de 5 ans. Et en fait, c'est une... Je pense que vous connaissez les sites comme Photolia, comme Image Stock, etc., où vous pouvez acheter des superbes photos professionnelles pour 1 €, 2 €, etc. Et bien, en fait, sxc.hu, c'est la même chose, mais en version gratuite. C'est-à-dire que vous allez retrouver des super photos, des fois de professionnels, des fois d'amateurs, mais d'une qualité toujours assez bonne, et vous allez pouvoir les télécharger gratuitement à condition de se créer un compte en moins de 30 secondes en mettant son email. Et ce qui est génial, c'est que c'est un site qui est édité par justement une banque de données d'images payantes, ils ont fait site à côté pour dire aux gens, aux photographes, voilà, toutes vos photos que vous voulez plus vendre, qui sont trop anciennes ou que vous estimez qu'elles vont à être gratuites, on vous met en place tout un site où vous pouvez les distribuer et puis pas avoir les coûts d'hébergement, etc. Donc c'est vraiment une banque de données d'images génial, top, et en plus elle est gratuite. Donc ça c'est
incroyable. Et eux ils font leur argent sur le petit bandeau de pub en fait.
Alors ils font leur argent sur le petit bandeau de pub et ils ont une version payante de ce site qui s'appelle Stock Expert. D'ailleurs ils font beaucoup de pubs. Si maintenant tu cherches une image, tu cherches par exemple house pour avoir des images de maison, voilà, ils t'affichent toujours une ligne. Voici les photos que vous pouvez acheter pour $1 sur iStockPhoto.com et tout le reste c'est gratuit.
D'accord.
Tu peux télécharger. Donc c'est le meilleur des deux mondes.
Pas mal.
Effectivement,
c'est
effectivement iStock Photo est un site qui est assez connu.
Et qui est super aussi quand tu veux acheter des photos aussi. Ou même des footage, c'est-à-dire par exemple,
des
quand tu veux faire
vidéo, ouais.
Voilà, des petits extraits vidéo et puis tu peux les avoir en HD. Enfin bon, c'est vraiment super ce qu'ils ont fait.
Donc si vous faites un site ou même pour un... On a beaucoup de salariés, de gens qui travaillent dans des entreprises qui...
Ah ouais, ça te sert tout le temps quand tu veux
présentation, tu fais
ton document texte, ton PowerPoint, ton Keynote, t'as besoin d'une photo de je sais pas qui, au lieu d'avoir juste un titre et un texte, t'as besoin d'une photo qui agrémente et qui rend plus agréable. Tu vas sur sxe.hu, tu rentres ton mot en anglais dans le moteur de recherche, tu trouves plein de photos gratuites de professionnels, tu l'intègres. Franchement, c'est un site génial et tu peux même t'en servir quand t'es designer.
J'ai presque envie de conserver uniquement ce site fantastique et d'en faire le seul de l'émission, mais bon, tu seras pas content.
Ah, surtout avec Animoto.
Animoto, ouais. Exactement.
Alors vas-y. Non, alors, mais vas-y, fais les trois, il en a trois.
Juste avant, il y a Calameo que j'ai découvert. Alors, Calameo, qui est disponible en toutes les langues, en anglais, en japonais, en italien, en français. Et en fait, vous envoyez votre fichier Word, PDF, PowerPoint, Excel, et il vous l'encapsule dans un player flash.
Donc, ça permet de faire n'importe
et vous
quel...
Pouvez, voilà. Et tu peux le distribuer sur un site, t'es pas obligé d'embêter les gens en leur disant, voilà, vous êtes obligé de télécharger le fichier PDF pour le consulter, vous êtes obligé d'avoir Word pour ouvrir mon truc, et le site est super bien foutu parce que il te permet de l'exporter sur Twitter, sur ton blog, en RSS, sur Facebook, et il y a une version premium qui te propose d'accéder à des versions professionnelles si tu veux vraiment faire un catalogue sur ton site. T'as pas besoin de t'embêter à comment dire, généralement les boîtes elles font faire un catalogue PDF par l'imprimeur et elles doivent demander à un informaticien de refaire le même catalogue. Là, tu prends ton PDF, tu le mets dans le player en flash. Ça te permet de rajouter des options, des zones de zoom. Enfin, voilà, super site.
J'aimerais signaler que tu as dit player quand même au lieu de
lecteur, pardon, le lecteur flash.
mais tu as bien dit PowerPoint. Hein.
Oui.
Donc ça compense. J'ai
voilà.
Pas osé le dire, mais à chaque fois que tu le dis dans Wheel of Mac JT,
je dis pauvre point généralement dans la vie. Dans la vie courante, je dis pauvre point.
Et enfin, le dernier site fantastique, qui
énormissime.
Est effectivement lui aussi fantastique.
Alors là, je sais que Yann va perdre tous ses cheveux. C'est un logiciel de réalisation vidéo en ligne, totalement.
Oui, t'es généreux quand même dans cette description.
C'est-à-dire, alors, je m'explique, ça vous permet d'envoyer des photos et des courtes vidéos dans une timeline. C'est des petits blocs. Vous allez pouvoir les enchaîner les uns après les autres. Vous allez pouvoir mettre une musique par-dessus et le site va vous faire un rendu de vidéo, mais d'une qualité télévisuelle. C'est vraiment un truc. D'ailleurs, ceux qui ont pu suivre la keynote que j'ai fait, tous les jingles, le jingle de lancement et le jingle à la fin, ont été réalisés à l'aide de ce site. Donc, ça vous donne un petit peu l'aperçu du niveau. Et en fait, il analyse la musique, il analyse vos photos, il analyse l'ordre dans lequel vous avez fait, il analyse le rythme de la musique, il analyse tout, la colorimétrie des photos, les différents effets, et en fait, il va vous les enchaîner et vous faire une vidéo, mais d'une qualité, mais à chaque fois...
Il fait ça tout seul, c'est ça qui est le plus...
Et ça tout seul, on a juste besoin d'envoyer ses photos, de les mettre dans l'ordre qu'on veut, de rajouter des textes si on veut mettre un titre ou un truc comme ça. On peut juste dire, voilà, cette photo, j'aimerais qu'il y passe un peu plus de temps Vous cliquez sur un bouton et il se charge justement à distance sur ces gros serveurs de vous faire le rendu vidéo et il vous envoie un petit mail. Votre vidéo est prête. Vous pouvez vous l'avez dans le lecteur flash. Vous pouvez la télécharger dans, vous pouvez la télécharger sur votre disque dur. Vous pouvez l'envoyer sur Twitter, sur Facebook et vous avez une, enfin, allez sur le site animoto.com. Vous avez une grosse vidéo d'exemple qui vous montre tout le potentiel du logiciel et c'est un truc assez hallucinant.
Vraiment, le plus simple, c'est de le tester soi-même, quoi.
Vous allez sur le site, vous cliquez sur Play et vous allez tout de suite comprendre.
Mais même, vous créez un petit compte, vous envoyez quelques photos de vos amis et de vous choisissez une musique qui correspond à l'humeur que vous voulez donner à votre film. Vous envoyez des photos de vos vacances ou de votre chat ou de votre maman qui écoute Deezer et vous faites un truc en deux secondes et c'est super sympa. Et c'est
si vous êtes un professionnel, vous pouvez accéder donc au compte payant. Et avoir d'autres options et la possibilité bientôt de télécharger le rendu en HD. Donc c'est fait pour tout le monde.
Eh bien écoute Mathieu, merci mille fois pour cette triple dose de site fantastique. On passe aux messages, mails, commentaires, etc. D'abord, merci à tous pour tous les commentaires sur le blog. Vous êtes comme toujours très nombreux à nous donner vos impressions et vos avis. Steve nous a envoyé un petit email pour nous dire que il était sceptique de cette info qu'on a donnée il y a quelques temps, selon laquelle Yahoo Mail serait le plus gros fournisseur d'accès, le plus gros fournisseur de d'email du monde, loin devant MSN et enfin Hotmail, donc Microsoft et Google. Il disait en fait que dans sa famille, entre lui et son fils, dans sa famille en général, ils avaient 4 ou 5 emails par personne parce qu'il y avait différentes applications qui nécessitaient différentes adresses et que donc ils multipliaient les adresses email Yahoo. Le truc, c'est qu'il est évident que certaines personnes comme ça vont avoir plusieurs adresses email, mais là où c'est vrai pour Yahoo, ça va être 10 fois plus vrai pour Gmail. Je veux dire, rien que moi, je dois avoir 3 ou 4 adresses Gmail. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose, mais dès qu'on a une adresse dont on a besoin, aujourd'hui, on crée une adresse Gmail. Je ne vois pas qui ira créer une adresse. Je ne sais pas si vous confirmez, si.
Généralement, quand je vois un ami faire ça, ce n'est plus mon ami. Je plaisante.
Moi, j'en vois beaucoup quand même qui créent des comptes Hotmail, enfin Live maintenant.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est vrai. Pardon, je me suis effectivement mal exprimé, mais c'est le cas sur tous les fournisseurs. C'est bien pas sûr exclusif à Yahoo, ce type de d'anomalie en quelque sorte.
Non, et je pense qu'en plus c'est proportionnel avec finalement au nombre d'utilisateurs. Donc s'ils sont les plus gros, proportionnellement, imaginons qu'il y ait 60% des gens qui aient un double compte ou triple compte, ça sera vrai chez tout le monde, effectivement.
Voilà. Et c'est surtout qui vivent sur leurs acquis. Si maintenant tu commences à comparer, si tu commences à comparer les courbes de création de comptes et de comptes actifs, et la proportion et les évolutions, c'est Gmail qui est loin devant tout le monde.
Mais donc, effectivement, ça ne change pas cette analyse qui est qu'a priori, Yahoo reste le plus gros fournisseur malgré cette anomalie que tu as raison de signaler, ceci dit Steve. C'est vrai que certains pourraient penser que ça change les choses, mais ça n'est pas le cas. Écoutez, c'est la fin de notre émission. Avant de vous dire au revoir, je vais quand même remercier les gens qui nous ont laissé des commentaires positifs sur iTunes. Je dis positifs parce qu'il y a très peu de commentaires négatifs. Et nous en sommes extrêmement heureux et nous vous en remercions grandement. Si vous le savez, si vous voulez nous laisser un petit commentaire sur iTunes, vous pouvez le faire très facilement en vous connectant sur iTunes et en cherchant le rendez-vous tech. Vous allez sur la page du podcast, vous cliquez laisser un commentaire, vous pouvez également laisser une note. Je vois qu'on a majoritairement des notes de 5 étoiles et ça me fait très plaisir. 328 notes aujourd'hui et 199 commentaires, donc vous pourrez peut-être être le 200e. Je vais lire deux commentaires, les deux derniers là, comme ça complètement au hasard. Moutmat nous dit, voici un podcast que j'attends fébrilement toutes les deux semaines pour l'écouter dans le métro. C'est agréable d'entendre des personnes qui prennent le temps d'aller au fond des sujets et pas seulement de les survoler. bonne continuation. Je pense qu'il parlait de Will of Mac quand il disait.
Ouais, je pense.
Il disait ouais, Will of Mac, c'est un petit peu pourri, en fait. Voilà, c'était ça. Chris83S nous dit précis, léger et détendu. On passe en revue l'actu et tous les sujets techno. Un bon moment. Merci à vous deux. Il y a bien d'autres commentaires encore. Et si vous voulez aller nous en laisser un, comme je vous le disais, ça nous aide pour gagner un petit peu en visibilité sur iTunes. Donc, nous vous en sommes reconnaissants par avance. Surtout que la section podcast a été un petit peu réorganisée et les choses sont moins faciles à voir. Donc, vous nous laissez de commentaires.
Il y en a un qui ne va pas être d'accord là entre nous.
Ouf, moi je trouve que ça va, c'est assez visible quand même.
Voilà, et donc vous pouvez également aller sur le site pour laisser des commentaires donc sur les articles du blog. Le site c'est lrdv.fr qui vous amène vers le site central qui s'appelle frenchspin.com. Vous pouvez nous envoyer un email à tech@frenchspin.com. Et voilà pour nous. Vous pouvez me suivre sur Twitter à l'adresse notepatrick, enfin le nom de compte notepatrick. Vous pouvez suivre Mathieu Blanco, comme on disait tout à l'heure, à Mathieu Blanco, twitter.com/Mathieu Blanco. Autre chose, je crois que tu as un petit site qui est sympathique en ce moment, Mathieu, que tu as développé il y a quelques mois, qui fait un truc genre un podcast, je ne sais plus trop.
Ouais, on va arrêter.
Non, mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu étais là depuis que tu as fait ton gros changement entre MacJT et qui s'est transformé en We Love MacJT. Tu peux peut-être expliquer à nos auditeurs ce qui s'est passé très rapidement.
Rapidement, il y a un site que je connaissais depuis des années, enfin une personne qui faisait des sites depuis des années d'actualité Mac, de tests logiciels et autres. Je suis l'un de ses plus grands fans et depuis que je fais des podcasts, je lui ai dit bah écoute, toi tu fais de l'écrit, tu fais des dossiers, tu fais des trucs super super léchés à chaque fois. Moi je fais des podcasts, je pense qu'on peut réunir les deux. Il a trouvé l'idée super et puis en gros ce que je fais à l'audio, lui il le fait à l'écrit. Donc tous les gens l'ont compris ainsi, donc voilà.
Et donc, tu n'as pas dit l'information principale qui était que tu as transformé MacJT
en We Love MacJT
officiel de son site à lui.
Voilà.
D'accord.
Donc, qui est welovemac.net. Et puis voilà, si vous, parce que je commence à en lancer plusieurs des podcasts et plein d'autres trucs, allez sur mon blog, il y a toutes les informations, tous les liens, mathieublanco.fr. Et puis voilà.
Ça marche. Il y a des gens dans la chatroom qui réclament Financimo.
Oui, bah,
je me joins à eux. Donc,
on a eu une discussion aujourd'hui. C'est pour bientôt. C'est pour très bientôt. C'est vraiment tout proche.
Super. Cédric, on a parlé de Geeking le podcast. Cédric, d'ailleurs, que vous pouvez suivre sur Twitter, Cédric Bonnet, comme on le disait là encore en début d'émission. Mais Geeking, ça n'est pas qu'un podcast.
Et non, ça n'est pas qu'un podcast. C'est aussi un blog collaboratif.
Nos transitions commencent à devenir hyper pro, tu sais, on est là. Et donc, mon cher camarade, émission.
Effectivement, ce n'est pas uniquement un podcast vidéo, puisque c'est aussi donc un blog. On est plusieurs geeks à réagir sur à peu près tout, hein, parce qu'on parle de plein de choses, tout ce qui fait la culture geek. Parce qu'encore une fois, pour nous, les geeks ne sont pas que des possesseurs d'iPhone et de Mac, par exemple. Donc, non, voilà.
Menteur.
Non. J'ai acheté ces héros, je t'appelle. Mais voilà, enfin, on parle vraiment de la culture geek en général. On teste des jeux vidéo, on teste du matériel, on boit des bières devant donc notre podcast. C'est vrai que le podcast est beaucoup plus.
Ah, c'est pas du jus de pomme.
Non, c'est pas du jus de pomme. Non, mais nous on ne fonctionne pas au rhum ou au tipanche comme les Scuds. Mais voilà, donc Geeking, c'est un podcast sur l'actu geek. On fait pas que de la techno, loin de là même d'ailleurs, on en fait pas beaucoup. Mais voilà, et d'ailleurs on a un numéro spécial, j'en profite, qui va sortir demain, puisque là il reste encore 9 heures d'encodage, d'après ce que me dit Final Cut. On a un numéro spécial d'1h30, spécial espace et space opéra et tout ça, qui va sortir demain, et je suis déguisé en Obi-Wan Kenobi.
Ah, j'ai vu les photos, c'est mémorable.
Voilà, et Julien lui est déguisé en chef ingénieur de Star Trek, donc voilà, on a fait un générique spécifique pour ça.
Julien, il a mis un t-shirt, quoi.
Ouais, c'est à peu près ça. C'est vrai que mon costume est un peu plus recherché, mais voilà, non, mais on s'est éclaté. Et puis il y a Sophie qui nous accompagne, donc une geek qui est avec nous, qui nous parle de séries télé. Voilà.
Bah écoute, nous sommes, je suis impatient de voir ça. Comme tu disais, c'est Geekinc,
geekinc.fr.
Eh bien, écoutez, merci à vous deux. Merci encore à la chatroom d'être venue. Et puis, je crois qu'on va essayer de décider avec la chatroom du titre de l'émission. On a plusieurs candidats, on va voir ça avec eux. Dans tous les cas, vous pourrez nous retrouver dans deux semaines, le 28 septembre, pour une autre émission en live. Si vous voulez les détails sur le streaming live pour nous suivre, vous joindre à la chatroom. Tout ça est sur le site frenchspin.com, donc sur le site de l'émission. Et puis voilà, on vous souhaite... un bon deux semaines, ça fait un peu bizarre. On vous souhaite de passer un bon moment pendant ces deux semaines loin de nous, et puis on vous donne rendez-vous donc à ce moment-là, le 28 septembre. Ciao à tous.
Merci à toi, au revoir.
Au revoir.
Très bien, bah, j'ai failli réussir la conclusion entièrement sans bafouiller.
Un bon 15 jours à tous.
Et donc, un bon deux semaines.
Pour le nom de l'émission, tu peux mettre « Ils étaient pas nés, comme le poisson ».
Mais en fait, j'ai... Mais ma mère... Alors attendez, bon, il réclame un vote. On va faire un vote. 80% pour ma mère sur Deezer. Je crois que le vote... Et incontestable, la puissance de la démocratie à parler, ça sera ma mère sur Deezer.
C'est énorme.
Excellent.
Il faut que je lui dise d'écouter l'émission.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.